Emmanuel Roquette, et vous Emmanuel, vous nous venez avec un sujet qui risque d'être assez pétillant pour cette première émission.
Chaud.
Voilà, les feux d'artifice.
Les feux d'artifice, bah oui, je me suis dit c'est la première, donc autant que ce soit un peu festif, donc autant, qu'est-ce qui est plus festif qu'un feu d'artifice, hein. Et pourtant, finalement, sous ce vernis festif, le feu d'artifice, ça révèle bien d'autres choses. Et c'est le propos d'un livre absolument magnifique qui est sorti récemment. C'est sorti l'année passée, en 2014, donc ça reste récent quand même. Et qui s'appelle « Art incendiaire, la représentation des feux d'artifice en Europe au début des temps modernes ». C'est un livre de Kevin Salatino, un Américain, donc c'est un livre traduit de l'anglais. Et c'est aux éditions, aux magnifiques éditions Macula. Alors, le titre paraît... paraît très très pointu, on se dit oulala, il va nous parler d'un truc absolument qui ne peut intéresser que les historiens et encore spécialistes des temps modernes ou les maîtres artificiers actuels qui cherchent à fonder dans l'histoire leur propre pratique. Eh bien pas du tout, parce que sous cette appellation un peu ardue qui fait un peu thèse de doctorat, eh bien il y a vraiment un intérêt qui rejoint le contemporain le plus extrême. Alors, pour parler d'exemples contemporains, ben ça vaut tous arriver d'assister à des feux d'artifice. Hein. Il y en a pas mal. Alors pourquoi est-ce qu'on fait un feu d'artifice ? Ben il y a plein de raisons. Ça peut être un armistice ou la célébration d'un anniversaire d'armistice. Ça peut être un début ou une fin de Jeux Olympiques ou de Coupe du Monde. Ou alors, enfin l'exemple qu'on connaît tous, c'est le Nouvel An, par exemple. Eh bien. Parce que le premier mérite du livre de Kevin Salatino, c'est de montrer que derrière cet élément festif se cache toujours, absolument toujours, un élément de pouvoir, en ce compris au temps moderne, mais également à notre époque. Alors ce qui l'intéresse, c'est vraiment cette époque-là, c'est l'époque des temps modernes, c'est-à-dire... Pour faire simple, hein, parce que les temps modernes, ça peut regrouper pas mal de réalités différentes, il l'analyse de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, grosso modo. Et ce qui l'intéresse principalement à cette période, c'est les pouvoirs politiques qui sont plutôt des monarchies absolues. Et les monarchies absolues, elles recouraient à cet événement qui était le feu d'artifice pour à peu près les mêmes raisons qu'actuelles, c'est-à-dire pour fêter l'anniversaire d'un roi, une naissance, un mariage. Et à ce moment-là, ils accueillaient non seulement leur population, mais également des états voisins, des chefs d'état voisins, des notables. Et voilà, ils leur proposaient un feu d'artifice. Alors, c'est une manière de montrer son pouvoir, le feu d'artifice, de plusieurs manières différentes. Tout d'abord, par l'ampleur des moyens que l'on mettait dans l'organisation du feu d'artifice. Alors les moyens qu'on y mettait sont absolument considérables. On a difficile à se l'imaginer encore maintenant, mais par exemple, on allait jusqu'à construire des barques provisoires, donc qui ne servaient que ce jour-là, à ce moment-là, pour le feu d'artifice, c'est-à-dire quelques minutes. On construisait des barques qu'on mettait le long de la Seine, sur lesquelles se trouvaient des artificiers et qui devaient, à certains moments bien précis, lancer toutes leurs fusées. Tout ça, donc, sur des centaines et des centaines de mètres. Donc, c'était des budgets absolument colossaux. Et au plus, évidemment, la magnificence était importante, mais au plus, finalement, le pouvoir était mis en avant. Donc, par l'ampleur des moyens qu'il commanditait, le pouvoir était assis, finalement, par cet événement. Donc, c'est un des premiers éléments, la magnificence qui permettait d'asseoir un peu plus le caractère absolu du pouvoir. Il y a un autre élément, c'est que le feu d'artifice, c'est le feu. Donc, c'est l'artifice, mais c'est aussi le feu. Et le feu, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les armes, donc c'est la guerre, donc c'est le chaos. Et le pouvoir en place, en mettant, en confiant à des artificiers cet événement particulier, eh bien, il se posait comme une forme d'organisateur du chaos. C'est-à-dire qu'il se posait comme le garant de celui qui apportait l'harmonie au chaos, qui permettait d'organiser celui-ci. En gros, le message qu'on cédait, c'était « sans moi, c'est le chaos ». Et c'est ça le feu d'artifice, c'est l'organisation d'un chaos. C'est un chaos non seulement militaire, mais c'est aussi un chaos qui a un sens naturel. Le feu, c'est aussi le feu des volcans. Et c'est pas simplement une interprétation que fait Kevin Salatino, puisque pendant toute l'époque des temps modernes, il y avait véritablement une volonté d'inscrire le feu d'artifice dans la lignée d'un événement naturel, dont l'exergue, l'exemple parfait, c'était le Vésuve, l'éruption du Vésuve. Et donc, le gouvernant en place, le monarque absolu, se montrait garant à la fois du chaos des armes, du feu, des conflits qu'on pouvait avoir avec les autres États et un garant du désordre, peut-être pire encore, qui était le désordre naturel. Alors ça, c'est une première chose, montrer à quel point le feu d'artifice est toujours, encore actuellement, un exercice du pouvoir. Mais le titre ne s'intéresse pas réellement au feu d'artifice. C'est la représentation des feux d'artifice en Europe au début des temps modernes qui l'intéresse. C'est-à-dire que le pouvoir en place, il crée un événement qui dure quelques minutes, et puis voilà, c'est tout. Actuellement, quand on assiste à un feu d'artifice, on a plein de moyens d'en garder une image, qu'on va dire entre guillemets objective. Qu'est-ce que l'objectivité d'une image? On peut prendre une photo, on peut prendre une image filmée avec les smartphones, en garder le souvenir, le diffuser dans le temps, mais également dans l'espace. Mais à l'époque, c'était pas possible, on n'avait pas de caméra. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait? Si on voulait ne pas se contenter simplement de montrer l'exercice du pouvoir à un bref événement, il fallait le diffuser à la fois dans le temps et dans l'espace, et c'était l'objet des gravures. Donc c'est pour ça que les feux d'artifice ont, dès leur départ, dès le XVIIe siècle, donné lieu à la publication de gravures qui étaient diffusées à la fois dans les cours, auprès de notables, non seulement la cour du pays en place qui avait organisé le feu d'artifice, mais également les cours des pays voisins, tout simplement pour faire montre de son pouvoir. Alors, la gravure, c'est pas une photo. Donc, il y a moyen de faire pas mal de choses. Il y a plusieurs choix qui sont possibles avec la gravure. On peut la mettre en couleur ou en noir et blanc. Le graveur a le choix également du moment du feu d'artifice qu'il décide de graver. Ça peut être le moment avant, ça peut être au moment où les fusées s'élèvent, ça peut être au moment où les fusées explosent. Le graveur a le choix du point de vue aussi. C'est un point de vue qui peut être surplombant ou alors ça peut être au ras du sol. Il peut jouer sur la perspective. Il peut également représenter le feu d'artifice en présence du public ou pas. Donc, il peut représenter le feu d'artifice seul ou alors le public qui assiste aussi. Donc, soit le public, la multitude, le peuple, la populace, ou alors les monarques, les autres monarques, les souverains invités ou les notables. Donc, il y a pas mal de choix aussi qui trouvaient finalement leur sens, moins dans la réalité du feu d'artifice, dans la réalité de ce qui s'était passé. Donc, ce n'était pas documentaire, mais plutôt dans l'image que voulait justement donner le pouvoir en place de cet événement-là. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. En fait, ce que Kevin Salatino montre par l'entremise de ce point très très précis, et il ne sort jamais véritablement de ce point, il l'analyse mais à fond, c'est il pose la question de la représentation de l'éphémère. C'est véritablement ça la question qui passe. Qu'est-ce qu'on peut faire quand quelque chose est fugace, quand quelque chose est bref, pour le représenter, pour le faire durer dans le temps et également dans l'espace? Ça, c'est une question très, très importante qu'il pose. Et puis alors, l'autre question qui, là, est peut-être plus interprétative de son travail, c'est que fondamentalement, quand nous, on est face à un spectacle comme un feu d'artifice, on est extatique un petit peu. On trouve ça beau, on trouve ça moche, on trouve ça réussi ou pas réussi, mais on ne se pose pas réellement la question de ce qu'il y a derrière. Alors qu'il y a toujours un pouvoir derrière, il y a toujours une médiatisation qui est derrière aussi. Et donc, la question qu'il pose, c'est la question, est-ce qu'on va rester sous l'égide de cette opinion, qu'on n'arrive pas en général à très bien décrire soi-même, ou est-ce qu'on va aller chercher derrière? Alors que c'est précisément sur ce point de vue-là que se fonde le feu d'artifice. Parce que le feu d'artifice, c'est finalement faire survenir sur un même plan la terreur absolue, la terreur des armes, du feu, ce qui fait véritablement peur, et en même temps une fascination. C'est-à-dire, on trouve ça terrifiant, mais on reste quand même collé à ce spectacle. Et si on reste collé à ce spectacle, on ne trouve pas les raisons de ce spectacle. C'est véritablement le point d'ancrage qu'il trouve dans ce livre. Qui plus est, magnifique.
C'est la question du sublime, en fait.
Exactement, c'est la question du sublime.
Et c'est la question du delight, comme disait Burke, cette idée qu'on est face à un spectacle qui nous terrorise et qui nous paralyse, mais en même temps qui ne peut pas vraiment nous atteindre, et donc où la pensée, quelque part, se suspend.
Effectivement, d'ailleurs, Burke, je pense que c'est un penseur du XVIIIe siècle. Oui. Pas mal de monarques n'avaient pas cette pensée-là, donc c'est une pensée qu'il a établie par après. Mais c'est effectivement sur cette théorie, sur ce concept du sublime, que les monarques se sont quand même appuyés pour créer ce type d'événement. Et donc, c'est vraiment ça la réflexion de Kevin Salatino, c'est que si on se laisse finalement mener par le bout du nez, on est juste, comment dire, utilisé par ce sublime, on est juste bouche bée, béat, extatique, un peu neuneux, quelque part. Et donc, retrouver finalement les origines du sublime, ça permet de démonter un peu tous les mécanismes qui sinon s'imposent à nous.
Il y a des parallèles à faire tout à fait hallucinants avec la période contemporaine. Enfin, on pense simplement à Bruxelles et à son feu d'artifice annuel qu'on change de place comme bon semble au bourgmestre bruxellois et dont on change le territoire. Simplement ça aussi, ça peut être une question de pouvoir, de se dire qu'on va le déplacer, qu'on va déplacer les gens, leur point de vue sur ce qui va être montré, etc. Je pense qu'il y a vraiment, enfin, ça a l'air d'être un livre tout à fait fascinant par rapport aussi aux perspectives contemporaines qu'on peut.
C'est certain. C'est d'autant plus fascinant que le point de, comme je le disais, Kevin Celentano se contente de ce point-là. Il parle jamais de l'époque contemporaine. Ça, c'est moi qui introduisais un peu. Et donc, avec un point de vue aussi précis, aussi fouillé sur quelque chose d'aussi pointu, eh bien, ça éveille des. Quand on va vraiment au fond des choses sur quelque chose de pointu comme ça, ça éveille des choses fondamentales à nous, contemporains.
Alors Emmanuel Roquette, nous parlions de la couverture de la proposition de Pierre de Jaeger tout à l'heure.
C'est plus sobre.
Ici donc, chez Macula, les couvertures sont très très sobres. Par contre, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de l'iconographie.
Oui, alors oui, effectivement, je rassure, Kevin Celentano n'a pas posé de la même manière sur le capot d'une Aston Martin non épilée, certainement pas. Alors oui, c'est un livre magnifique. Comme toujours chez Macula, on a une couverture noire, un titre très sobre en blanc. C'est du vrai noir, donc c'est pas une teinte de la couverture, c'est du vrai papier noir, avec également une qualité des reproductions à la fois noir et blanc et en couleur, puisqu'à la fin on a un cahier couleur qui reprend certaines reproductions en couleur, qui sont. Alors c'est pas simple d'avoir une qualité de reproduction vraiment en couleur, mais également en noir et blanc, qui est absolument magnifique. Ceci dit, Macula, ils sont coutumiers du fait. Hein. Leurs livres sont à chaque fois absolument superbes.
Oui, vous parliez de l'éphémère aussi. C'est aussi ce qui fait des feux d'artifice un objet graphique particulièrement étonnant, parce qu'il y a tout ce travail des graveurs, des peintres, des dessinateurs pour représenter tous les phénomènes de rémanence rétinienne qui font que ça vaut la peine de parler de l'aspect visuel de ce livre.
Oui, d'ailleurs, il y a une représentation d'un mécanisme oculaire qu'il était possible de mettre à l'époque pour avoir une représentation plus ou moins efficace des effets de couleur qui avait. Un autre élément dont je n'ai pas parlé, qui est très intéressant aussi, c'est que le fait de ne pas avoir à disposition de mécanismes dynamique ou documentaire en tant que tel à l'époque, permettait de mentir aussi. C'est-à-dire que les feux d'artifice, surtout à l'époque, c'était pas dans les mêmes dispositions actuelles avec des pompiers bien prêts et tout fonctionnait bien. Non, pas du tout. Il y avait des désastres, il y avait des morts, etc. Chose évidemment qui n'était pas particulièrement mise en avant, ni dans la gravure, ni dans les récits des feux d'artifice qui étaient faits à l'époque.
Kevin Celentano, Art incendiaire, la représentation des feux d'artifice en Europe au début des temps modernes. C'est paru chez Macula dans une traduction d'Alexandre Nguyen Duc Nguyen. Et je vous propose une composition de circonstances. Ce sera Igor Stravinsky, Fireworks.